Bien qu'il soit un organe très protégé des agressions extérieures grâce à sa boîte, le cerveau n'en est pas moins exposé au cancer. Environ 5000 nouveaux cas de tumeurs du cerveau sont diagnostiqués chaque année en France. Et la Tête au Carré, en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale, consacre son dossier aujourd'hui aux recherches qui sont menées contre ces cancers et bien sûr aux innovations thérapeutiques en cours. J'attends vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Si vous faites partie de ceux qui ont une aversion pour l'odeur du fromage, eh bien la Une de la Science est faite pour vous. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Des chercheurs lyonnais sont allés voir dans le cerveau, justement, des personnes qui détestent le fromage. Et les résultats intéressants et très étonnants sont dans un instant à la Une.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy, consacrée aujourd'hui au bâillement. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
On parlera donc des cancers du cerveau tout à l'heure dans le dossier avec mes invités, les professeurs Hervé Schneves et Alexandre Carpentier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Hervé Schneves, la moitié des tumeurs du cerveau sont des gliomes. C'est un ensemble de cellules moins connues que les neurones et pourtant qui jouent un rôle capital.
Alors, il ne faut pas confondre les cellules transformées, donc les gliomes, et puis les cellules gliales qui leur ressemblent, mais qui, elles, sont normales. Effectivement, dans le cerveau, on a plus de cellules gliales que de neurones, mais ces cellules gliales, elles jouent un rôle tout aussi important dans l'intégration de l'information plus localement. On parlera tout à l'heure de ces cellules transformées que sont les gliomes.
Alexandre Carpentier, avec votre équipe, vous avez réalisé une première mondiale en parvenant avec des ultrasons à franchir la barrière encéphalique. C'est très difficile de pénétrer dans un cerveau.
Oui, le cerveau se protège, les parois des vaisseaux du cerveau se protègent contre l'intrusion de toutes toxines éventuelles. Alors c'est bénéfique, mais lorsque vous avez une tumeur cérébrale, on a besoin de donner des chimiothérapies. Et là, malheureusement, l'avantage se retourne contre nous, puisqu'elles pénètrent, certaines pénètrent, mais beaucoup ne pénètrent pas du tout. Et donc on a réussi à perméabiliser temporairement cette barrière espérer rendre efficace, un peu plus efficace, d'autres chimiothérapies.
Et c'est très important. Donc, en matière de traitement, on va se retrouver dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Le fromage est un aliment clivant. On adore ou on déteste. Eh bien, les mécanismes biologiques de l'aversion sont aujourd'hui à la une de la science.
Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez là?
Et du maroilles.
Du maroilles? Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un fromage que je fais un petit peu fort.
Vous goûtez?
Non.
Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur.
C'est bon, hein?
Oh, c'est aussi fort une fois à l'intérieur.
C'est bon, ça qu'on trempe dans le café.
Ça adouchi.
Voilà, extrait du film Les Ch'tis pour parler du dégoût et des mécanismes cérébraux qui lui sont associés. Bonjour Jean-Pierre Royer. Vous êtes chercheur au Centre CNRS de recherche en neurosciences de Lyon et vous publiez aujourd'hui même une étude originale sur l'aversion au fromage. Comment est-ce que d'abord vous en êtes venu à étudier le dégoût particulier donc pour le fromage?
Alors je suis venu à travailler sur le dégoût pour le fromage parce que cela m'intéressait de connaître les circuits cérébraux qui sont impliqués dans l'aversion alimentaire. Si c'est très facile d'induire une aversion alimentaire chez un animal en lui injectant un produit comme le chlore au lithium, c'est totalement impossible de faire ça chez l'homme pour des raisons éthiques. Et donc la seule alternative, c'était par exemple de trouver des aliments pour lesquels la majorité des gens avaient du dégoût ou avaient de l'aversion. Et il me semblait que le fromage répondait à cette définition.
Mais c'est vrai que quand on regarde autour de soi, on a rarement des gens qui aiment moyennement le fromage. C'est soit on aime, soit on déteste. C'est des choses que vous avez retrouvées dans vos questionnaires?
C'est très tranché, c'est l'impression que j'avais, c'était quand même bien confirmé. Et oui, j'ai pas mal de gens autour de moi qui n'aiment pas du tout le fromage, qui n'en mangent jamais, et tous les fromages, ils rappellent ça à tous les fromages.
Comment est-ce que vous avez sélectionné scientifiquement le fromage comme aliment associé au dégoût? Vous avez fait des questionnaires?
Alors oui, j'ai fait un questionnaire, tout d'abord un premier sondage chez un nombre de personnes assez important, là plus de 300 personnes, un questionnaire qui comportait 75 aliments répartis en 8 catégories, donc les fruits, les fromages, poissons, viande, charcuterie, aliments variés, comme la choucroute par exemple. Et les gens devaient répondre de 0 à 10, dans quelle mesure ils n'aimaient pas du tout ou ils aimaient énormément ces aliments-là. Donc il n'était pas du tout, bien sûr, au courant qu'il était question du fromage, que j'étais intéressé par ça. Et là, j'ai eu la surprise de constater sur ce grand échantillonnage que plus de 6% des gens répondaient de 0 à 1 pour le fromage, en moyenne, pour les 10 fromages qui étaient cités. Alors que pour les autres aliments, c'était beaucoup moindre.
Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Vous avez proposé à ces gens-là de passer dans un IRM pour regarder leur cerveau ?
Alors, non. D'abord, je suis parti sur un autre échantillonnage. Je suis pas parti des mêmes gens. Hein.
D'accord.
Un autre échantillonnage pour sélectionner les gens qui devaient participer à l'étude d'IRMF, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et c'est à partir de 72 personnes, j'ai pu sélectionner 15 personnes qui n'aimaient pas du tout le fromage, mais qui aimaient les autres aliments qui sont utilisés également dans l'étude, 6 autres aliments comme fenouil, concombre, pâté, et 15 personnes qui aimaient les 12 aliments qui sont utilisés dans le cadre de l'étude.
Alors Jean-Pierre Royer, justement, qu'est-ce que vous avez remarqué ? Pourquoi est-ce qu'on déteste en particulier certains aliments ? Qu'est-ce qui se passe alors dans le cerveau ?
Alors, dans le cerveau, ce que nous avons vu, deux ou trois résultats principaux. Tout d'abord, c'est qu'il y a une petite structure qu'on appelle le pallidum ventral, en principe très activée quand on a faim et qu'on perçoit une odeur alimentaire, ou qui est également très activée chez des personnes obèses à qui on présente une alimentation riche en calories. Et qui là ne l'était absolument pas chez les personnes qui n'aimaient pas du tout le fromage. Elle l'était par contre quand on les stimulait avec les autres aliments. Mmh. Donc ça c'est une région qui intervient dans la motivation alimentaire, la motivation à manger, et dans le cas présent ça montre bien qu'il n'était pas du tout motivé à manger. Ça, c'était le premier résultat. Et puis, l'autre résultat, c'était deux structures qui font également partie du circuit de la récompense, hein, qui est assez complexe. Il y a beaucoup de petites structures qui interfèrent les unes entre les autres, qui interagissent. Donc, deux petites structures qui, elles, étaient beaucoup plus activées que chez les sujets qui aiment le fromage. Donc, ça, ça pouvait être surprenant dans la mesure où on parle de circuit de la récompense et là, on les voit plus activés chez des gens qui n'aiment pas du tout cet aliment-là. Mais cela peut s'expliquer de différentes façons. Et notamment, on sait qu'il y a des structures dans ce circuit de la récompense, très proches des nôtres, qui comprennent deux types de neurones. Il y a des neurones qui répondent à des situations plus aversives, d'autres plus positives. Et donc on suppose que dans notre cas, dans la machinerie, dans le fonctionnement de ce circuit de la récompense, c'est ce type de neurone qui a été activé davantage en réponse à l'odeur de fromage chez ces personnes que j'appelle anti-fromage.
J'ai une question un peu bête, mais pourquoi est-ce qu'on déteste certains aliments ? Est-ce que ça a un intérêt de ne pas aimer quelque chose ?
Ah ben oui, ben, ça c'est très important, je pense que tout le monde peut bien comprendre ça. C'est même fondamental pour la survie de l'individu et de l'espèce. Si on mange quelque chose, un aliment qui est abîmé, qui a varié et donc potentiellement toxique, on se rend malade. Et donc on a des douleurs abdominales, des nausées, des migraines, tout ce qu'on veut. Et on a intérêt à pas recommencer. Donc dès qu'on perçoit l'odeur, par exemple, l'odeur, les caractéristiques sensorielles de cet aliment, on est tout de suite appelé à ne pas en manger du tout. On le rejette quoi, d'emblée.
C'est surtout à la suite d'un mauvais souvenir, une maladie, une intoxication qu'on a eue en mangeant un aliment particulier.
Oui, à la suite d'une intoxication, en particulier, oui, une intoxication. Ouais. On mange un aliment, on y va à franco. Non, généralement, on n'y va pas très franco. Quand c'est un aliment qui est nouveau, on a ce qu'on appelle un comportement de néophobie, c'est la phobie de ce qui est nouveau, donc on y va avec parcimonie. Hein. Pensez à tous les aliments qu'on peut manger dans les pays exotiques, par exemple.
Merci beaucoup Jean-Pierre Royer donc pour cette étude sur les anti-fromages. C'est vous qui les avez nommés ainsi. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre CNRS de neurosciences de Lyon. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci,
et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le système solaire qui vient de gagner encore un nouvel objet protoplanétaire, bien plus lointain que Pluton, nommé L91. Ce petit monde de glace dont la taille est encore inconnue orbite si loin qu'il met plus de 20 000 ans à faire le tour du Soleil. Fait intriguant, son orbite semble perturbée par d'autres champs gravitationnels que celui de notre étoile. Pourquoi pas la 9e planète géante, s'il existe, disent les chercheurs, ou alors l'attraction d'une autre étoile de la Voie lactée. L91 s'approche au plus près du Soleil à 50 unités astronomiques, c'est-à-dire 50 fois la distance entre la Terre et le Soleil, et pourrait être donc un des restes de la grande partie de billard déclenchée par la migration de Neptune au moment de la formation de notre système solaire. Les expressions faciales liées à la peur ou l'étonnement ne sont peut-être pas si universelles que ça. Des chercheurs espagnols ont montré des photos de visages classiquement utilisées en psychologie pour parler d'émotions à des jeunes d'une tribu isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bien que le sourire soit pour eux associé à la joie, bien les mimiques communément associées à la peur ou l'agacement ne sont pas du tout traduites de la même façon par ces indigènes. Des résultats étonnants qui montrent que leurs réactions et leurs interprétations pourraient varier d'une culture à l'autre. Un problème nouveau que les créateurs de robots humanoïdes ou les logiciels des reconnaissances faciales n'avaient pas du tout anticipé. Et puis enfin, un collectif de personnalités et de scientifiques français demande aujourd'hui dans les colonnes du Monde la création d'un secrétariat d'État à la condition animale. Parmi les 20 signataires, Boris Cyrulnik, Mathieu Ricard et Elisabeth de Fontenay, tous plaident pour que les hommes engagent d'autres rapports avec le monde animal et que les contrôles pour lutter contre la maltraitance soit renforcée. Une pétition est d'ailleurs en ligne sur change.org. Elle est en lien sur la page de la Tête au Carré. Allez, nous parlons des cancers du cerveau dans un instant avec la Fondation pour la Recherche Médicale, et ce sera juste après dans la radio et Jacques. Bon après-midi avec nous.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Avec des gens qui sont intelligents, et moi j'ai pas d'avis parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets, et moi je n'existais plus. Mais c'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio. Et elle disait: on joue tous la même chanson, mais on la joue pas de la même façon. On écoute tous la même chanson, mais on l'entend pas.
La Tête au Carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et les cancers du cerveau, donc cet après-midi dans l'émission, en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale, qui consacre un dossier à ces tumeurs dans son dernier numéro de Recherche et Santé. Mes invités pour en parler, répondre à vos messages, le professeur Hervé Schneweis, vous êtes neurologue, chercheur en neurosciences, président du comité d'éthique de l'INSERM, et puis le professeur Alexandre Carpentier, neurochirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les questions des auditeurs arrivent déjà sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Ils sont donc, je le disais tout à l'heure dans la présentation, au nombre de 5000 chaque année en France. Qu'est-ce qu'on appelle exactement les cancers du cerveau, Hervé Schneweis?
Oui, je crois qu'il faut différencier deux choses. Il y a d'une part les localisations dans le cerveau de cancers qui sont nés ailleurs. C'est ce qu'on appelle les métastases. Et donc, on ne va pas parler de cela aujourd'hui.
Oui.
Malheureusement, le cancer du poumon, le cancer du sein peuvent provoquer des métastases cérébrales, dans certains cas graves, dans d'autres cas, au contraire, très accessibles. C'est le cas des mélanomes quand c'est une métastase unique. Et puis, il existe également, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, une transformation tumorale de certaines cellules du système nerveux. Ce sont donc les cancers primitifs du système nerveux, les cancers du cerveau, et il en existe différentes sortes, mais la catégorie la plus nombreuse, la plus fréquente, surtout chez l'adulte, ce sont les gliomes.
C'est à peu près la moitié de ces cancers du cerveau?
Alors chez l'adulte, c'est même pour le glioblastome, c'est-à-dire la tumeur la plus agressive, la moitié des tumeurs de l'adulte. Mm-hmm. Chez l'enfant, ça représente un tiers des tumeurs, les gliomes, l'autre tiers étant le méduloblastome et le troisième tiers des tumeurs dérivées du développement des ébauches neurales. Ce qu'il faut voir, c'est que même si c'est un cancer rare, hein, c'est jamais dans le top 10 des cancers, c'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez l'enfant et la quatrième chez l'adulte. Donc ça nécessite compréhension et thérapeutique.
Oui, le nombre de cas, donc à peu près 5000, hein, tout confondu en France. Est-ce que les chiffres sont stables ou est-ce qu'au contraire, Alexandre Carpentier, on voit de plus en plus de cas de cancer du cerveau?
Il est rapporté une petite progression d'environ 2% par an, mais c'est pas vraiment très significatif comme progression. Donc on peut dire grosso modo que c'est stable, ils sont très vite détectés, il n'y a pas de biais de détection, donc c'est un chiffre qui est assez stable.
Même avec le vieillissement de la population, Hervé Schneweis, hein?
Alors, effectivement, il y a quelques années, on a eu une augmentation qui a été liée d'une part, comme le disait Alexandre Carpentier, à une meilleure détection, parce que l'imagerie cérébrale, le fait de faire des IRM, ce n'est pas si ancien que cela. C'est au cours des 15-20 dernières années qu'on a pris l'habitude de faire des IRM quand quelqu'un se plaignait de maux de tête répétés ou présentait une crise d'épilepsie pour la première fois à un âge avancé. Et puis, à côté de ça, on a un vieillissement de la population. Et comme chez l'adulte, en tout cas, ce sont des tumeurs qui apparaissent plus après 60 ans, eh bien, il y a une incidence aussi. Alors après, il reste encore quelques fifrelins qui peuvent être liés à des facteurs d'environnement. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Alors justement, il y a des questions d'auditeurs qui nous parlent de l'alimentation, des pesticides, alors tout ce qui est justement environnemental. Est-ce que justement ça peut avoir une influence sur les formations de tumeurs cérébrales? Qu'est-ce qu'on en sait véritablement aujourd'hui, Hervé Schneweis?
Alors il y a un point que l'on sait, et le reste, il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de recherches. Ce qui est clair, parce que des grandes études avec des centaines de milliers de personnes ont été faites, c'est que le téléphone portable n'est pas responsable d'une plus grande incidence de tumeurs cérébrales.
Il y a un vrai ou faux, justement, dans le magazine de la Fondation pour la Recherche Médicale, et qui donne une réponse claire là-dessus. C'est faux, pas d'augmentation de cancer lié au téléphone portable.
Voilà, ça c'est clair. Alors pour le reste, beaucoup d'études sont en cours et elles méritent d'être menées.
Est-ce que, Alexandre Carpentier, on parlait des enfants justement tout à l'heure, vous êtes amené à traiter beaucoup d'enfants sur le nombre de cancers du cerveau ou pas?
À Paris, l'enfant est traité à Necker. Moi je suis à Pitié-Salpêtrière, donc je ne fais que de la chirurgie des tumeurs cérébrales de l'adulte. Donc on est très bien organisé comme ça à Paris. Donc toutes les tumeurs cérébrales de l'enfant sont traitées à Necker. Alors je collabore en recherche avec Necker, bien évidemment. Et généralement, Necker travaille aussi avec l'Institut Gustave Roussy.
Ouais. Alexandre demandait si une tumeur au cerveau était douloureuse.
Alors ça dépend ce qu'on entend par douloureux. Le cerveau est insensible. C'est l'organe de la sensibilité, mais il est totalement insensible. C'est pour ça, peut-être, Alexandre Carpentier en parlera, qu'on peut opérer les gens éveillés. Ouais. Par contre, le cerveau est emprisonné dans une boîte, la boîte crânienne, dans des enveloppes, les méninges, et donc tout ce qui va créer une hypertension intracrânienne va être douloureux. Et donc, il va y avoir des maux de tête. Et puis, malheureusement, certaines localisations de certaines tumeurs peuvent se faire sur des voies de la sensorialité ou de la sensibilité. Et donc, quand on a des tumeurs qui sont autour du quatrième ventricule en particulier, on peut avoir des tumeurs très douloureuses liées à la localisation parce qu'elles perturbent les centres de perception de la douleur. Mais en elle-même, une tumeur n'est pas douloureuse.
Est-ce qu'on opère toujours des gens éveillés aujourd'hui, Alexandre Carpentier, ou pas ?
Oui, toujours. Ouais, oui, c'est la preuve. Il y a longtemps, c'était la première technique, en fait. Avant l'anesthésie générale, on avait peur d'endormir les patients quand on les opérait du cerveau. On voulait savoir comment ils réagissaient, et donc on les opérait réveillés.
Ouais. Réveillés. Ce qui permettait de communiquer avec le patient.
Ce qui permettait de communiquer avec le patient, et puis de vérifier par des petites simulations électriques qu'on n'abîmait rien sur notre passage. Maintenant, la technologie fait que vous pouvez avoir toutes ces informations avant l'opération, des IRM fonctionnels, et une intégration de tout cela dans des systèmes informatiques assez puissants, et dans des systèmes de neuronavigation, ce qui fait qu'au bloc opératoire, vous pouvez vous permettre d'endormir le patient, et vous êtes en pleine sécurité.
Ouais.
Dans certains cas, lorsqu'on a besoin de traverser du cerveau sain pour accéder à une tumeur, à ce moment-là, on peut être amené à réveiller temporairement le patient pendant une intervention.
Pour quelle raison ?
Parce que vous allez traverser une zone saine du cerveau et donc vous allez vérifier véritablement que vous n'allez rien abîmer sur votre passage. Mais souvent, le plus souvent, les tumeurs ont quand même un côté très superficiel ou bien approche du cortex, c'est-à-dire l'enveloppe supérieure du cerveau. Et donc, souvent, on peut s'affranchir de cette intervention réveillée qui est quand même psychologiquement lourde.
C'est ça.
Lourde à supporter. Ouais.
Pour un patient, c'est extrêmement traumatisant, justement, de rester éveillé pour une telle opération.
Certains le tolèrent, d'autres en ont une mémoire difficile, ouais.
Ouais. C'est la hantise du chirurgien, justement, que de traverser la mauvaise zone pendant une opération.
Ça, c'est la hantise du chirurgien, oui. Ouais. Traverser la mauvaise zone et puis avoir des soucis avec les petits vaisseaux, parce que les vaisseaux s'occupent de milliers de neurones derrière. Donc, c'est les deux dangers, en effet, du chirurgien. Et la hantise aussi, c'est que le patient vive mal potentiellement une intervention ou bien se réveille avec un déficit. Oui.
Donc
maintenant,
chirurgie,
toute la technologie est faite pour assurer le maximum de sécurité.
Et
par rapport à il y a 50 ans, quand on opérait les patients réveillés, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès et beaucoup moins de patients avec des déficits.
Ouais. Voilà, donc un travail d'orfèvre.
Bah, oui, c'est exactement ça. C'est l'importance de la qualité de vie. Je crois qu'une des choses, c'est qu'on va en parler, on a des espoirs sur des meilleurs traitements. Mais en attendant ces espoirs sur les meilleurs traitements, l'un des grands progrès qu'on fait nos stratégies, parce qu'on travaille ensemble. Le traitement actuel, il combine la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie.
On va en parler tout à l'heure, ouais.
Et donc, l'un des grands progrès qui a été fait au cours des 10-15 dernières années, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient. Et l'amélioration de la qualité de vie du patient, c'est d'avoir un geste chirurgical qui enlève le plus possible de la tumeur, mais qui maintient le plus possible l'intégrité de la personne, pas de paralysie, pas de perte de la parole, un minimum d'interférence avec la mémoire. Donc on est sur une médecine qui est déjà pour nous et depuis longtemps très personnalisée dans la mesure où c'est vraiment du cousu humain.
Ouais, Alexandre Carpentier, vous pouvez nous décrire en quelques mots cette photo qui est justement dans le dossier de la Fondation pour la Recherche Médicale, parce que là on voit bien justement pendant une opération, le but donc est de retirer le maximum de tissu sans altérer, vous venez de le dire Hervé Schneves, les fonctions essentielles hein, comme le langage ou la mémoire. Et donc là on voit un cerveau à vif, ouvert, avec des petits post-it, hein, des petits numéros qui sont posés un peu partout sur les aires cérébrales, c'est ça ? Ça c'est votre quotidien de chirurgien ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est enfin quand on a besoin de réveiller le patient, en effet, donc on le réveille en stimulant le cerveau avec une électrode bipolaire, une petite simulation électrique, on inhibe en fait le fonctionnement des cellules. Et donc, soit le mouvement de la main qu'on demande, soit la parole est à ce moment-là bloquée. Et dès lors que vous avez un blocage dû à une stimulation d'une zone très particulière du cerveau, vous mettez une petite pastille dessus. Alors, elle est sur cette photo faite avec des petits repères in situ au bloc opératoire, mais maintenant c'est aussi de plus en plus sur le système informatisé de neuronavigation.
Ouais. Donc là, on voit des lettres et des chiffres qui sont posés directement sur le cerveau du patient.
Exact.
Allez, on se retrouve dans un instant pour parler des signes, du diagnostic et bien sûr des traitements. Les messages sur franceinter.fr. Tester la voix de Sia que vous avez reconnue à l'instant sur France Inter.
Dr. Swander, j'ai regardé vos notes et les résultats d'Izzy Stevens. C'est vrai, en général, les cas comme le sien répondent mal au vaccin. Mais il y a deux médecins à l'Institut du cancer qui ont d'excellents résultats avec la fludarabine, suivie d'une immunothérapie par cellule souche. Et je connais vraiment bien la patiente. Izzy est jeune. Côté physique et émotionnel, elle peut résister, elle est forte.
J'ai lu aussi ses études.
Ce que je veux dire, c'est que vous ne savez pas comment elle va répondre. Alors on devrait essayer, elle va peut-être pas aussi mal que vous croyez.
Ces deux médecins n'ont pas de patients avec des métas cérébrales. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas de cas aussi avancés. Si Izzy Stevens veut un traitement efficace, alors il lui faut de la chimio, des rayons et de l'interleukine. Il y a de très gros effets secondaires. Elle va perdre ses cheveux, elle peut faire de l'hypertension, de l'arythmie, un œdème pulmonaire. Elle aura parfois l'impression de mourir. Mais c'est le prix si elle veut avoir une chance de vivre. Peut-être que ce serait différent si elle était venue me voir plus tôt, mais ce sont les faits.
Voilà, le cancer du cerveau façon série Grey's Anatomy avec mes invités, le professeur Evesh Neves et Alexandre Carpentier, la Fondation pour la Recherche Médicale. Une réaction de vous deux, s'il vous plaît, sur ce qu'on vient d'entendre là. Est-ce qu'il y a des bonnes exactitudes ou pas?
Il y a une très très large ampleur d'inexactitude.
Ah, allons bon.
Donc voilà, on va pas
pas rentrer dans les détails.
D'abord parce qu'il y a différentes tumeurs cérébrales. Vous en avez qui peuvent permettre aux patients de vivre très longtemps, plus de 20 ans. Ensuite, on en a malheureusement des très agressifs. Donc, on a différents types de tumeurs cérébrales. Et puis, parce qu'on a dit dès le début qu'on parlerait des cancers primitifs du cerveau, donc ces mystérieux cancers, parce que normalement, comme ça a été dit au début, le cerveau, c'est dans une boîte, c'est très protégé. Il y a 3 enveloppes de méninges. Il y a la barrière hémato-encéphalique que Alexandre Carpentier cherche à ouvrir avec les ultrasons. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de tumeur dans le cerveau, d'autant plus que le renouvellement du tissu nerveux est très faible. Une cellule souche de côlon dans la vie d'un être humain, ça va faire 1 million de milliards de cellules. Ouais. Une cellule souche neurale, ça va faire 10 000 cellules.
Et pourtant, ces fameux gliomes, justement, à Vechnevès, prennent naissance dans le tissu cérébral, c'est
voilà.
ça ?
Voilà. Et ça reste un des grands mystères de comprendre. Et en fait, très probablement, ce qui se passe, c'est que alors qu'il n'y a pas justement de multiplication cellulaire comme dans d'autres organes, pour des raisons que nous cherchons à comprendre, parfois des mutations génétiques qui apparaissent et qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre et de mieux soigner surtout ces cancers, on va avoir une reprogrammation des cellules, elles vont redevenir des cellules souches, et ce sont ces cellules souches particulières qui, à leur tour, vont se transformer et devenir ces tumeurs. Et du coup, grâce à des nouvelles approches, en particulier grâce aux connaissances issues de la génétique, on va mieux créer des catégories de tumeurs et mieux adapter les traitements, parce qu'on sait que dans certains cas, le patient va vivre très longtemps, donc on va essayer d'être le moins agressif possible, alors que dans d'autres cas, le patient a un mauvais pronostic, et donc on va essayer d'être beaucoup plus interventionniste.
Alors justement, des questions avant d'en arriver justement aux premiers signes, au diagnostic. Les cancers du cerveau sont-ils en train d'exploser en raison de la pollution par les métaux lourds? Ça, c'est une question de Jean-Paul. Alexandre Carpentier voulait répondre.
Les métaux lourds sont plutôt des agents qui tuent les cellules. Donc, ce n'est pas des agents qui vont créer des tumeurs. C'est plutôt quelque chose qui va, dans le cerveau, créer des neurodégénérations, destruction de neurones. Donc, c'est plutôt l'inverse.
Hervé Genevès, complément de réponse.
Non, on a impliqué des sels d'aluminium, on a impliqué le mercure dans des maladies neurodégénératives. On en trouve des traces dans des plaques, par exemple, d'Alzheimer ou dans des formes particulières de neurodégénérescence. À ma connaissance, dans les tumeurs, ça n'a jamais été réellement impliqué.
Alexandre Carpentier, les premiers signes cliniques, justement, est-ce qu'ils arrivent suffisamment tôt pour être décelés? Au contraire, est-ce que c'est très compliqué de pouvoir localiser les premières tumeurs?
Le premier signe clinique, c'est souvent l'épilepsie ou bien le déficit neurologique. Ça peut être simplement le volume que prend la tumeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne, trop de monde, entre guillemets, dans cette boîte crânienne. Et donc ça donne des maux de tête, céphalées, vomissements. Donc c'est soit céphalée, soit épilepsie, soit déficit neurologique ou cognitif, troubles de mémoire, baisse de l'attention.
Donc il faut être attentif, Hervé Genevès, à tous ces signaux sur les troubles de la parole, par exemple, les pertes d'équilibre.
Oui, mais je dirais que malheureusement, on n'a pas dans le système nerveux un état pré-néoplasique comme peut être le basocellulaire sur la peau, ou on n'a pas une possibilité comme la mammographie ou certains éléments de dépistage. Dans l'état actuel des choses, quand la crise d'épilepsie survient ou quand le déficit neurologique survient, malheureusement, on a déjà face à soi une tumeur déjà assez évoluée. Ouais. C'est l'un des enjeux aussi, c'est que évidemment le cerveau, comme on l'a dit, très protégé, il est aussi invisible.
Ouais. Et donc très compliqué de faire de la prévention dans ce domaine.
Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de notion de prévention connue possible. Donc
parce qu'il n'y a pas de facteur de risque.
Parce qu'il n'y a pas de facteur de risque connu. Ouais. Donc on est plutôt dans le curatif parce qu'on n'a pas d'éléments probants à se mettre sous la dent pour dire eh bien voilà, si on pouvait dépister à temps, on pourrait faire ceci ou cela.
Donc ça, c'est vraiment la singularité aussi de l'organe cerveau qui fait qu'on se retrouve dans ce type de situation. Pas la possibilité de faire de la prévention, elle est directement le traitement.
Vrai. Et on n'a pas de facteur réel qui pourrait expliquer le déclenchement ou la survenue d'un cancer du cerveau. Et il y a aussi, je pense que pour les auditeurs c'est important, aucun critère génétique, familial, en tout cas, enfin familial, héréditaire,
voilà,
dans le cadre de... Donc il n'y a pas de...
C'est parfaitement exceptionnel. Il y a un syndrome qui représente même pas un pour mille qui s'appelle le syndrome de l'Ifroménie, mais c'est un pour... Et quand je dis un pour mille, c'est peut-être un pour 10 000 des tumeurs cérébrales. Ouais. Et donc pour les 9999 autres, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique, incident.
Donc beaucoup d'interrogations encore posées sur les cas liés justement au cerveau. Donc ce qui fait que on s'améliore en tout cas sur d'autres terrains, celui de l'imagerie en particulier, Alexandre Carpentier.
Oui.
Où là on a fait d'énormes progrès pour justement mieux comprendre les tumeurs par exemple.
Oui, tout à fait. Alors à la sur l'IRM on voit très très bien dans les trois dimensions. On peut avoir des reconstructions en 3D, ça aide énormément le chirurgien avant de faire son geste. Mais on a aussi des séquences IRM qui étudient le métabolisme, c'est-à-dire les cellules qui bouillonnent ou qui ne bouillonnent pas, entre guillemets.
C'est-à-dire, c'est quoi une cellule qui bouillonne exactement?
Une cellule qui consomme énormément, qui libère énormément de toxines, parce qu'elle a beaucoup de métabolisme, donc elle est considérée comme agressive. Ça, c'est ce qu'on appelle l'IRM spectroscopique. Ensuite, on a les IRM de diffusion qui nous permettent de voir quel est le degré de diffusion de cette tumeur. Et puis, on a l'IRM fonctionnel qui nous permet de voir avant un geste chirurgical, si on en a besoin, la proximité de zones importantes que le chirurgien devra conserver.
Ouais. Maud demande, est-ce que vous pourriez préciser la différence entre les tumeurs bénignes et les tumeurs cancéreuses, Hervé Schneves?
Une tumeur bénigne, on en trouve chez l'enfant, c'est l'astrocytome pilocytique. Une fois qu'on l'a retirée, elle a disparu, c'est terminé. C'est aussi le cas pour les tumeurs, la plupart des tumeurs des enveloppes du cerveau, que sont les méninges. Les méningiomes sont des tumeurs très fréquentes que le neurochirurgien enlève et il n'y a pas de récidive. Donc ça, c'est fini. C'est un peu comme le grain de beauté. Un grain de beauté, si on l'enlève, il n'y a pas de récidive. Donc ça, c'est bénin. Quand c'est malin, c'est qu'il y a des processus alors d'échappement au cycle cellulaire, à l'infiltration dans les tissus. C'est l'un des grands problèmes des cancers du cerveau, c'est qu'ils sont très infiltrants. Donc le chirurgien essaye d'enlever le plus possible de tissu tumoral, mais il faut qu'il ne lèse pas le tissu sain. Or, il y a des cellules tumorales infiltrées dans le tissu sain, et c'est ça qu'on va aller essayer de chercher avec les chimiothérapies qu'on va donner en plus du geste chirurgical.
Alexandre Carpentier, Joël demande, est-ce qu'on peut envisager qu'un être humain porte en lui le germe d'une tumeur pendant de très longues années, avant que celle-ci se déclare à la manière, en quelque sorte, d'un mûrissement? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Au niveau cérébral, il y a des tumeurs qui évoluent très 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 lentement. Les gliomes bénins évoluent d'un millimètre, deux millimètres par an, maxi à peu près. Donc il y a forcément un jour où il est né. Donc 2 mm par an, vous voyez, si le symptôme arrive aux alentours de 5-6 cm de diamètre, donc ça fait un certain nombre d'années. Je sais pas, Hervé, si tu veux donner une précision supplémentaire.
Non, je pense que tu fais référence à des études qui avaient été faites par un de nos collègues, en particulier Laurent Capel, sur une forme de tumeur qui s'appelle les oligodendrogliomes, qui sont des tumeurs qui, dans certains cas, alors dans certaines formes génétiques, on va parler de 1P19Q délété, c'est un
type chez nous.
Un type de mutation des chromosomes. Eh bien, c'est des gens qui vivent plus de 20 ans. Et effectivement, on découvre souvent leur tumeur alors qu'elle fait plusieurs centimètres de diamètre. Et on peut remonter dans le temps et voir que ça fait 15 ans, 20 ans. On a des patients à la Salpêtrière documentés plus de 40 ans avec ce type de tumeur.
Ludovic pose cette question. Est-ce que, comme pour certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer, faire travailler son cerveau peut aider à prévenir, voire lutter contre le cancer du cerveau? Malheureusement,
hélas,
non.
Hélas, non.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
C'est vraiment quelque chose qui arrive. On a des personnes très actives, on a des intellectuels, on a des chefs d'entreprise, et puis on a des personnes très simples qui sont dans des emplois où ils font moins travailler leurs fonctions cognitives. On a tous les types de patients.
Tu t'instaures, nous nous faisons le bas, nous nous baladons
François-Anne, The Atlas Mountains avec Les Plus Beaux sur France Inter. Les cancers du cerveau avec la Fondation pour la Recherche Médicale, les professeurs Hervé Schmeves et Alexandre Carpentier et vos messages nombreux sur franceinter.fr. Ce témoignage de Chiara qui nous dit ceci, ayant accompagné pendant presque 3 ans mon mari atteint de cette tumeur, la personnalité du patient n'est plus la même, elle est très affectée par cette tumeur, sa situation de mort très proche ou ce qu'elle génère comme anxiété pèse très très lourd. C'est quelque chose qui n'est pas assez dit, surtout parce que la maladie ne se voit pas. Quelle est votre réaction là-dessus, Alexandre Carpentier ?
Oui, c'est sûr qu'un patient qui a eu une intervention de neurochirurgie, puis tout un traitement pour son cancer, va avoir un faciès parfaitement conservé, va avoir un aspect tout à fait normal, et pour autant, il a potentiellement des troubles cognitifs, de mémoire, de rapidité d'esprit.
D'humeur, apparemment, beaucoup aussi.
D'humeur, un peu. Ouais. Et de mobilité, de vitesse pour marcher, tout ça, qui vont être diminués. Alors si en plus il y a un handicap physique réel, ça peut être très lourd. Donc les familles sont quelquefois confrontées à des régressions cognitives et des lourdeurs au jour le jour. Mm-hmm. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres cancers, le cancer du poumon ou autre, les gens gardent leur intégrité intégralement. Alors, il y a des cancers du cerveau pour lesquels les patients sont parfaits, hein, mais c'est vrai qu'une partie, c'est très lourd à supporter. À la fois pour les cliniciens que nous sommes, et pour les familles, donc on pense à tous ces gens, bien sûr.
Chiara disait, c'est très important de savoir accompagner, d'être accompagné par le corps médical en tant que patient, parce que ces maladies sont vraiment très particulières.
Alors j'élargirais à dire pas seulement le corps médical, les soignants. Je crois que un des grands progrès qui a été fait aussi depuis une dizaine d'années, et là-dessus des gens comme Jean-Yves Delattre ont été pionniers, c'est la mise en place de structures, en particulier d'infirmières référentes, des consultations qui sont avec des accompagnants qui ont une formation de type infirmière en général, mais aussi la capacité de mettre en place des assistantes pour les formalités administratives, les relations avec la sécurité sociale. Donc il y a toute une prise en charge du patient et des personnes qui l'entourent, y compris à certains moments des possibilités d'hospitalisation provisoire pour soulager les aidants. Et donc cette prise en considération non seulement de la personne malade en tant que personne, mais aussi des aidants et des accompagnants est quelque chose qui s'est développé au cours des dernières années et qui fait qu'aujourd'hui, on a des équipes soignantes qui sont multidisciplinaires et c'est très important.
On a consacré une émission aux aidants il y a 15 jours sur cette même antenne. Vous évoquez le professeur Delattre, et bien justement, on va entendre parler de lui dans l'extrait de cette émission de France Culture, Les Pieds sur Terre. C'était Lydie Violet, écrivaine, malade du cancer, qui avait raconté sa maladie et son traitement justement par radiothérapie à son amie Marie Desplechin.
Ce traitement en radiothérapie, c'est un nouveau service.
Oui, c'est un nouveau service, en sachant évidemment que le professeur Delattre suit quand même tous ces malades de très près et est au courant, c'est lui qui prend les décisions et qui les propose. On n'est pas obligé de dire oui, puisque moi, il y a 12 ans, on m'avait déjà proposé la radiothérapie et je l'avais refusée. J'avais choisi seulement la chimiothérapie. Je pense que c'est une bonne chose que j'avais faite à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus aucun choix, que l'époque a évolué, les choses ont beaucoup évolué dans cet hôpital.
C'est-à-dire que tu as eu raison de refuser la radiothérapie à 10 ans parce qu'elle était plus destructrice.
Elle est violente et très invasive, toujours, sur le cerveau. Mais ils ont réussi, à améliorer les machines. Je suppose que c'est les machines qui sont améliorées et qui donc font un effet de manière moins violente qu'avant.
Voilà, Alexandre Carpentier, un mot sur la radiothérapie qui fait partie de l'arsenal thérapeutique.
Oui, la radiothérapie avant était concernée quasiment tout le cerveau. Maintenant, on arrive avec des collimateurs et avec des accélérateurs de particules à être beaucoup plus focaux, donc un geste pratiquement devenu chirurgical, au point même qu'il y a un appareil qui s'appelle le Gamma Knife qui est considéré comme de la radiochirurgie. C'est de la chirurgie, la radiothérapie chirurgicale. Donc en précision millimétrique pour essayer d'éviter les zones saines qui n'en ont pas besoin.
Alors justement, l'un des obstacles, vous le disiez tout à l'heure, pour le traitement de ces cancers, c'était justement cette barrière du cerveau très étanche. Et avec votre équipe, vous avez réalisé une première mondiale en parvenant donc à faire pénétrer les médicaments, donc la chimiothérapie par exemple, directement dans le cerveau en créant une sorte d'ouverture momentanée. Expliquez-nous ce que vous avez découvert.
Exact. Oui, en fait, il y a assez peu de drogues qui arrivent à rentrer dans le cerveau. Les drogues sont injectées par voie veineuse, par voie périphérique veineuse, dans votre bras. Et donc, elles vont circuler dans les vaisseaux du cerveau. Et si, par chance, enfin, si elles peuvent pénétrer dans le cerveau, elles seront alors efficaces. Mais bon nombre de drogues, beaucoup de médicaments ne pénètrent pas dans le cerveau, car le cerveau se protège d'une étanchéité de ses vaisseaux que dans le cerveau, pas ailleurs dans le corps. Les vaisseaux du cerveau sont très étanches, ils ne laissent pas passer n'importe quoi.
Et donc il fallait rendre le cerveau perméable, c'est ça, c'était le but.
Voilà, le but d'espérer de faire rentrer ces molécules, c'est de perméabiliser cette étanchéité de barrière. Ça va concerner beaucoup de médicaments, parce que de plus en plus on donne de l'immunothérapie, et de plus en plus les molécules, les chimiothérapies ou les médicaments sont de plus en plus gros, et donc ils passent de moins en moins bien. Donc en fait, notre plan d'attaque a été de faire... vibrer, entre guillemets, des petites bulles de gaz qui sont injectées par voie veineuse. Et lorsqu'elles sont dans le cerveau, elles vibrent parce que le cerveau est émis et soumis, pardon, à des ultrasons. Alors, c'est des ultrasons qui sont de très faible intensité parce que c'est de l'ordre exactement la même chose qu'une échographie normale. Donc, on n'est pas du tout toxique pour le cerveau. Mais par contre, on va faire vibrer ces petites parois vasculaires et donc elles vont être, entre guillemets, perdues et laisser passer la drogue, laisser se faire berner, entre guillemets, et laisser passer la drogue. Et on a 6 heures devant nous.
Vous avez une fenêtre, c'est ça, de 6 heures.
On a une fenêtre de 6 heures et au bout de ces 6 heures, la barrière hématoencéphalique, cette étanchéité se recrée spontanément.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a une efficacité aussi du traitement qui est amplifié par cette perméabilité là que vous créez.
Alors on a montré en effet chez l'animal que la dose de médicaments qui arrive dans le cerveau est 7 fois plus importante. Donc on espère avoir une efficacité meilleure. Pour l'instant, on a prouvé que en effet le médicament passait mieux, qu'on ouvrait cette barrière. On n'a pas prouvé pour l'instant qu'on était plus efficace pour les tumeurs que les traitements conventionnels qu'on fait au jour le jour. Donc on est sous forme d'essai thérapeutique. Il y a peut-être un espoir. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire. En tout cas, on a une façon de faire, un outil maintenant qui va peut-être permettre dans le futur d'utiliser d'autres médicaments qui avant n'étaient même pas utilisés parce qu'on savait qu'ils ne rentraient pas dans le cerveau.
Résultat et première publiée dans Science donc en juin dernier. Vous travaillez sur l'animal là pour l'instant ou vous avez des patients qui en ont bénéficié?
On a fait beaucoup d'animaux depuis 2010, bien évidemment. Et les choses dans les formes et dans les sécurités bien sûr. Et là nous sommes au 21e patient.
Ouais. Et donc les résultats sont encourageants?
Les résultats sont encourageants en termes de technologie médicale, c'est-à-dire qu'on a réussi à montrer qu'on ouvrait cette barrière hématoencéphalique et qu'on n'était pas toxique. Donc, c'est deux avancées importantes. Cependant, on n'a rien montré pour l'instant sur l'efficacité contre la tumeur. On ne sait pas si... Parce qu'on y associe une drogue, ça se trouve, c'est pas cette drogue qui sera particulièrement efficace pour ce cancer-là.
Est-ce que cette technique pourrait être adaptée à d'autres maladies? du cerveau, évidemment.
Alors, c'est en effet, cette barrière, cette étanchéité des vaisseaux gêne beaucoup de, enfin, tous les cliniciens depuis des années et des années. Là, on l'applique aux tumeurs cérébrales. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'elle puisse être appliquée à d'autres pathologies, notamment dégénératives ou autres. Mais bon, là, c'est encore, c'est le futur.
Donc, sur Alzheimer, vous pourriez très bien utiliser cette même technique ou pas?
Sur Alzheimer, vous me poussez dans mes retranchements. Sur Alzheimer,
maladie neurodégénérative,
sur la
tout
souris,
on pense
il
à
semblerait
Alzheimer.
Qu'en effet, les choses soient intéressantes.
Donc, vous avez déjà des travaux sur cette question.
On va même probablement commencer chez l'homme bientôt pour la maladie d'Alzheimer, sur la Pitié-Salpêtrière.
Bon, coup de promesse, Hervé Schneves, autour de ces nouvelles techniques.
Mais je crois qu'il y a beaucoup d'espoir parce que justement, il y a beaucoup de recherches qui se développent. C'est aussi pour ça qu'il faut soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale qui aide tous les type de recherche, parce que comme Alexandre vient de l'illustrer, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Différentes stratégies parce qu'aussi, on ne peut pas imaginer qu'il y a une seule tumeur. À certains moments, les cellules sont très actives. C'est pour ça qu'il faut de l'imagerie cérébrale qui mesure leur métabolisme pour savoir si elles sont chaudes, si elles sont très actives ou froides. À d'autres moments, si elles sont dormantes, eh bien, c'est pas la peine d'aller utiliser des traitements. Il faut adapter le type de traitement, il faut adapter à chaque métabolisme de patient, à chaque âge, et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue, mais effectivement, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les équipes de recherche qui sont en continuum entre la recherche fondamentale et la clinique, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, c'est le moment d'accélérer, c'est le moment d'aider les chercheurs et les médecins, et c'est le moment effectivement d'avoir de l'espoir, mais un espoir concret, c'est-à-dire il faut avancer, il faut faire des expériences, il faut parfois, même prendre certains risques. Sinon, on n'avance pas.
Et il faut encourager donc la Fondation pour la Recherche Médicale qui soutient chaque année plus de 750 recherches, et pas seulement dans ce domaine du cancer du cerveau, toutes les pathologies, et vous pouvez aider la Fondation en faisant vos dons, par exemple, sur www.frm.org. Et puis justement, à la une du dernier Recherche et Santé, cette recherche qui innove contre les cancers du cerveau. Hervé Schneves et Alexandre Carpentier, merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez nous parler et nous faire bâiller, certainement.
Oui Mathieu, figurez-vous que nous ne savons toujours pas pourquoi nous bâillons. Alors ça se demandait à quoi on paye les chercheurs. En 86, un psychologue américain, Robert Provin, écrivait dans une étude que, je cite, « Le bâillement pourrait détenir le titre peu enviable du comportement commun le moins bien compris chez l'homme. » 30 ans plus tard, la phrase reste d'actualité. Nous en sommes toujours réduits aux conjectures pour expliquer à quoi sert ce long décrochage de mandibule accompagné d'une longue inspiration. Alors, marque de fatigue, d'ennui, de nervosité, de faim, oxygénation du cerveau, thermorégulation du cerveau. Plusieurs hypothèses ont été avancées sans que l'on puisse trancher. Sans oublier les bâillements provoqués par la vue d'un autre bailleur ou par la simple évocation du bâillement. J'entends bâiller la moitié des auditeurs.
Oui, ça marche même à distance. Mais le bâillement n'est pas le propre de l'homme, Pierre.
Très juste, Mathieu. On le retrouve chez des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et presque tous les mammifères. Et c'est ce qui rend cette énigme physiologique énervante, parce que le bâillement est probablement l'héritage d'un comportement très ancien et très utile. Alors, une étude américaine publiée le 4 octobre a voulu tirer profit de cette quasi-universalité du bâillement chez les mammifères pour en savoir un peu plus. Ces trois auteurs se sont dit, si le phénomène est vraiment lié à la maintenance du cerveau, par exemple à sa thermorégulation, sa durée chez chaque espèce sera fonction de la taille et de la complexité du cortex. Alors, pour tester son scénario, notre trio de chercheurs a fait le tour de la plus grande ménagerie du monde, à savoir YouTube. Objectif, la chasse aux bailleurs à quatre pattes. Alors, on imagine le dialogue le soir à la maison. Qu'as-tu fait aujourd'hui au labo, mon amour? Bah, aujourd'hui, j'ai chronométré le bâillement de hérisson sur YouTube. Si, c'est pour la science.
Qu'est-ce que ça a donné?
Et de la souris à l'éléphant d'Afrique, du lapin au renard, du wissiti au gorille, sans oublier l'homme, bien sûr. Une bonne vingtaine d'espèces a été passée en revue et les chercheurs ont noté que les bâillements des primates étaient nettement plus longs que ceux des autres mammifères et que l'homme, avec sa tripotée de neurones dans le cortex, était champion en la matière. Peu importe la taille du corps ou du crâne, Homo sapiens battait l'éléphant et le cheval haut la mandibule. Alors, plus le cortex est gros et développé, plus longtemps on bâille, ce qui, selon les auteurs de l'étude, confirme que le bâillement a une fonction neurophysiologique. biologique. On ne sait pas encore laquelle, mais ça avance. En revanche, en l'absence d'une vidéo sur YouTube, on ne sait pas si Donald Trump baille, ni s'il en a besoin, parce que la science n'a pas réponse à tout.
Et cette chute était totalement gratuite. Mais ça fait du bien, en le disant. On retrouve cette chronique dans le supplément sur ces médecines du monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu, Pierre Barthélémy?
Alors cette semaine, le dossier est un reportage dans le laboratoire français à Babruy, qui se trouve dans les anciennes installations nucléaires souterraines du plateau d'Albion. Les chercheurs profitent de l'extrême confinement du lieu pour monter des expériences qu'ils ne pourraient pas faire ailleurs.
Et qu'on découvre dans le monde. Merci beaucoup Pierre. Bonjour Fabrice Rouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Le thème d'affaires sensibles.
D'abord, je vous demanderai de ne pas bâiller pendant l'émission, n'est-ce pas ? Bien. Surtout que c'est intéressant puisque nous revenons sur le combat des Contis, mobilisation ouvrière et sociale, l'une des plus importantes de ces dernières années. Et nous en parlerons avec notre invité Xavier Mathieu, qui est l'ancien délégué syndical des Contis, précisément.
Merci, à tout à l'heure.